Ce premier dimanche de carême est habituellement appelé le dimanche de la tentation. Et donc c'est bien pour nous de méditer sur ce qu'est une tentation, ce qui la différencie du péché et ce qui la différencie de la blessure. Ce sont trois choses très différentes. La tentation, d'abord, ça vient par dans notre imagination. C'est clairement le démon, nous croyons que le démon agit dans le monde, c'est le prince de ce monde, mais il agit aussi en nous. Si nous sommes sauvés par le Christ dans le baptême, restent en nous les conséquences du péché originel, et bien par notre imagination, il nous rejoint en nous faisant miroiter des possibilités de bonheur, mais qui sont des faux bonheurs. On n'en a pas le récit cette année, avec les différentes trois étapes des tentations que vous connaissez bien, dit à ses pains, ses pierres de se transformer en pain, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre, et puis va au sommet du temple et jette-toi d'ici, là, de là en bas, et les anges garderont, te prendront sur leurs mains. Ces trois tentations, en fait, qui sont les tentations à la fois liées au corps, liées au bien matériel, liées à la toute-puissance de l'esprit, auxquelles répondent, vous le savez bien, les trois conseils évangéliques chasteté, une juste distance par rapport au plaisir du corps, de pauvreté, une modestie dans l'utilisation des biens et une obéissance, une attitude humble face à la volonté de Dieu et à sa parole. Mais nous sommes tentés. Donc on voit bien que la tentation vient en nous, le démon vient toucher parfois des zones sensibles et souvent on me pose la question, mais c'est quoi la différence entre la tentation et la blessure? Vous avez peut-être lu un certain nombre d'ouvrages où on parle, j'en ai lu il n'y a pas très longtemps, les blessures de l'enfance, etc. Grosso modo, assez unanimement, on voit qu'il y a cinq blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Que d'une manière ou d'une autre, nous avons été touchés par ces blessures, même si nous avons eu des parents aimants, même si, eh bien, il y a quelque chose où nous nous sommes sentis rejetés, nous nous sommes sentis abandonnés. Il y a quelque chose qui n'a pas été comblé parce que précisément, le Seigneur seul peut nous combler. Et donc, si on a pu chercher chez d'autres comme un remède à nos souffrances, à nos blessures, ben c'est aussi une tentation de découvrir qu'au fond, seul Dieu lui-même est capable de combler les désirs de notre cœur. Et donc, souvent la tentation s'enracine dans la blessure. Je vous donne un exemple. Une personne, par exemple, qui a eu une blessure d'abandon, qui s'est sentie ou rejetée pour X raisons dans la vie professionnelle, et souvent c'est ça s'enracine dans l'enfance, etc. Eh bien, sera peut-être plus tentée de vouloir avoir des amours possessives, par exemple, de vouloir être au centre de l'attention, de vouloir remédier à sa propre blessure par une manière d'agir, mais qui la laissera au fond, complètement sur sa faim, qu'elle restera sur sa faim, parce que l'autre ne peut pas combler les blessures de notre vie. Alors, et c'est là que l'intéressant, le péché, c'est d'où l'importance de se connaître soi-même, d'où l'importance de découvrir en nous-mêmes quels sont les points de fragilité. Nous, on a tous nos points de fragilité. J'en cite cinq, mais peut-être d'autres déclineront autrement. Mais et c'est dans ces points de fragilité que nous sommes tentés. On dit, si tu fais ceci, tu vas pouvoir échapper à la souffrance de l'abandon. Si tu fais ceci, tu vas pouvoir échapper au rejet, etc. Et à la fois, et à la fin, on reste les mains vides. Et c'est là le péché, c'est autant la tentation, elle est en amont, elle nous fait, on écoute cette petite voix intérieure, mais qui n'est pas bonne, qui est vraiment l'esprit du mal, le malin qui vient de toucher quelque chose en nous. Mais le péché, c'est passer à l'acte. Oui, c'est sa différence. Autant la blessure est involontaire, Autant le péché, lui, il est volontaire. Et donc, il y avait une liberté possible, et j'ai opté par le mauvais chemin. Une personne, par exemple, qui serait dans une addiction, par exemple, je sais pas quoi, par rapport à l'alcool, etc., mais il y a deux chemins qui sortent de sa maison. Un qui passe devant le bistrot, l'autre pas. Là, cette personne-là, elle est libre. Mais si elle prend le chemin du bistrot, plus elle avance vers le bistrot, moins elle est libre. Et quand elle pousse la porte, encore moins. Et quand elle est face à la bouteille, encore moins. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est les premiers pas de liberté qui sont les plus coûteux. C'est là l'habitude qu'on a pris, qu'on appelle un vice. Hein, quand il s'agit d'actions mauvaises, ces vices dont on a pris l'habitude, voilà, et qui nous entraînent vers le mal, mais parce qu'on pense que je vais être heureux avec une sorte d'ivresse, hein, une sorte de voilà, je vais être comme comblé, je vais sortir de ce monde. Chacun a ses beaux, et parfois on rationalise, dans le sens où on dit ben oui, en fait. On se donne des raisons pour agir comme on agit. Par exemple, imaginons que, bon, c'est pas trop la période, mais va venir le moment au mois de juin, je crois, où il y a une déclaration d'impôt. Eh bien, on a toujours des bonnes raisons, pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont peut-être plusieurs sources de revenus, de ne pas mettre tout sur sa déclaration d'impôt. On a toujours des bonnes raisons. Et on se dit, c'est qui le plus grand voleur? Ben, c'est l'État, évidemment. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, rationaliser. Donc, c'est important peut-être que nous, déjà, dans ce temps-là, on puisse dire, tiens, où est-ce qu'on n'est pas en vérité? Où est-ce qu'il y a quelque chose du mensonge? La tentation est toujours du mensonge, et nous pousse au mensonge ensuite. Où est-ce qu'il y a quelque chose du mensonge où, parce que finalement, on est aussi bien content d'avoir, même si on râle, ben, quand même une certaine sécurité, d'avoir l'électricité, d'avoir voilà, une certaine assistance des services de l'État. Bon, ben, bien sûr, on est imparfaite, mais bon, mais je trouve ça intéressant que nous puissions nous-mêmes être en vérité là-dessus. Et ça peut être d'abord ce premier effort du carême, de repérer à la fois, découvrir en nous c'est parfois ces blessures que nous avons eues, et comment le démon vient nous chercher là où on est fragile. Et je trouve bien cette histoire de l'arche de Noé, que souvent on raconte aux enfants avec les différents animaux, etc. Donc les enfants sont très petits enfants, les petits sont très fans de ça, etc. Mais il y a bien sûr une relecture beaucoup plus, je veux dire, profonde. Face, vous savez que l'arche de Noé a été créée après le péché originel, après le meurtre d'Abel par Caïn, et il y avait une telle violence, dit l'Écriture, sur la terre, que Dieu s'est repenti. C'est dit dans des mots inspirés. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, et donc il dit, voilà, on va... je vais tout noyer, effacer de la surface de la terre, mais peut-être qu'il y a un homme juste. Et cette histoire de Noé qui dit, m'a fait un bateau, et met, et ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il met dedans? Il met des animaux par paire, mâle et femelle. C'est-à-dire, il vient protéger la fécondité. Et face à ces manques d'alliance, parce que c'est ça, les blessures sont liées au manque d'alliance. Au manque d'alliance par rapport au péché originel, nous sommes coupés d'avec Dieu. Et cette coupure d'avec Dieu entraîne la coupure entre l'homme et la femme, entraîne la coupure avec la création, entraîne la coupure entre frères, etc. Bon, entraîne une violence. Et ces manques d'alliance, eh bien, Dieu ne s'y résout pas. Il ne s'y résout pas. Il dit, ben, on va redonner une chance. Dans ce contexte, ce récit biblique qui est un récit inspiré, voilà, mais donc il ne faut pas chercher forcément la trace de façon où est-ce que ça va être, comment ça s'est passé, etc., etc. Ce qui est important, c'est quel est le signe, qu'est-ce qu'il nous est dit. Il ne se résout pas au manque d'alliance. Il ne se résout pas en manque d'alliance qui viennent nous blesser, parce que ces blessures, ça vient des manques d'alliance. Et vient demander, vient protéger la fécondité en nous, protéger un petit reste d'humanité, hein, et puis ensuite il vient redonner confiance à travers le passage que nous connaissons parfois plus, avec j'établis une alliance entre moi et vous, avec tous les êtres vivants, de génération, voici mon arc au milieu des nuages, hein, l'arc-en-ciel, qui est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes, comme un signe. Et je trouve que le remède, c'est beau dans cette histoire-là de Noé, c'est le remède à nos blessures, le remède à nos penchants mauvais, qui s'enracinent dans nos fragilités, c'est revenir à l'alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi, revenir à l'alliance? C'est-à-dire, nous ne sommes pas seuls. Le croyant n'est jamais seul. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est notre foi. Et notre foi, qu'est-ce qu'elle est belle? Il ne se résout pas à nos manques d'alliance. Il redonne une chance. Il permet une fécondité de s'établir, une refaillance avec toute la création après Noé. Et puis, comme a dit saint Paul, voilà, c'est la figure pour nous, saint Pierre plutôt, c'est la figure du baptême. Nous sommes sauvés des eaux du baptême, des eaux du déluge par le baptême. Voilà. Mais je trouve que c'est important quand on est parfois submergé par des flots de violence, parce qu'on a beaucoup de violence en nous. Quand on est submergé par des flots de violence, quand on est dépassé par des torrents du mal, parce que c'est ça, Dieu a vu tellement de mal sur la terre, dit ce récit biblique, qu'en fait, on peut avoir cette attitude de désespérer ce mal en nous comme ce mal autour de nous. Qu'on voit tellement de rejets, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, eh bien parfois on se décourage. Et je trouve que Jésus lui-même a pris sur nous ses blessures, a pris sur nous le rejet, évidemment, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Et ce contact avec le Christ et avec les blessures, les cinq blessures qui sont aussi les blessures du Christ, on peut aussi l'avoir dans notre vie par l'Eucharistie. Acquérions-nous. Y a-t-il un autre chemin? Y a-t-il un autre chemin pour apaiser en nous ce désir de parfois avec plein d'équivocations, plein de d'erreurs, ce désir d'être comblé, y a-t-il un autre chemin que de mettre nos blessures au contact des blessures du Seigneur? Vous voyez, je pense que peut-être le carême, ça peut être d'abord ça, c'est de dire dans nos relations, parce que ces blessures-là, évidemment, elles parlent de relations et de relations qui sont douloureuses. Dans ces relations-là, nous voulons faire mémoire de l'alliance. Nous voulons faire mémoire de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Dans ces souffrances à lui, nous avons mis nos souffrances à nous. C'est par ces souffrances que nous sommes sauvés, dira saint Pierre. On veut refaire alliance. On veut laisser cet amour plus grand que la mort triompher. C'est notre foi. Et elle est belle. On veut, même si parfois on est découragé, parce que évidemment, tellement de choses peuvent nous décourager dans l'état du monde, et puis dans l'état de nos familles, dans l'état de nous-mêmes aussi, en nous. Et bien, rappelons que le Seigneur, déjà dans les temps bibliques, avait mis un refuge que ce ne soit pas le mal qui l'emporte, mais que triomphe la qualité du lien, la qualité de la relation qu'on appelle l'alliance. Alors, on peut nous-mêmes, dans notre vie, refaire mémoire de ça, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes accompagnés par des êtres de chair, nos proches, qui ne font pas que de nous blesser, non, qui sont aussi là pour nous soutenir, mais nous sommes aussi accompagnés par le Seigneur, par son Saint-Esprit, trouvons des lieux refuge quand nous sommes découragés, trouvons des lieux de fécondité quand tout nous paraît perdu, quand nous sommes submergés par les flots. Demandons au Seigneur d'être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.